10h05. 10h05 sur Radio Libertaire, la voix sans lieu d'y mettre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'émission qui commencera donc dans 25 minutes, très exactement. C'est l'émission Chronique Hebdo. Alors je vous rappelle que Chronique Hebdo, vous pouvez l'écouter non seulement en direct, mais vous pouvez aussi l'écouter en téléchargeant l'émission sur le site de Radio Libertaire et puis aussi en écoutant, puisqu'elles sont pour une trentaine d'entre elles, elles figurent sur le blog Chronique Hebdo. Et donc, par conséquent, vous pouvez le trouver en tapant sur n'importe quel sur Google, par exemple, en tapant Chronique Hebdo, et vous verrez que vous pouvez même réécouter des émissions qui sont assez anciennes. Là, j'avais une amie que je voyais hier et qui me disait, bah écoute, je suis tombé sur une émission que tu as faite avec Castoriadis. Alors, ça fait déjà un sacré bout de temps avec Castoriadis, et il paraît que c'était très bien. J'ai complètement oublié d'ailleurs, parce que ça fait peut-être 15 ans que Castoriadis est mort, il y a déjà pas mal d'années. Voilà, eh bien, ce matin, bien sûr, là vous avez entendu notre indicatif qui est une musique de jazz, bien sûr, d'Herbie Hancock, un morceau qui s'appelle Cantaloupe Island. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'îles dans le monde qui s'appellent comme ça, mais alors je ne sais pas celle qui avait inspiré cette géniale partition à Herbie Hancock. On va parler, bien sûr, du Monde Libertaire, puisque c'est votre journal favori et qui paraît dans les kiosques, pas tous, mais enfin dans un certain nombre de kiosques, et puis dans les différentes officines qui vendent des journaux. Alors, il y en a qui connaissent pas ces officines de journaux ou qui ignorent ou font semblant ou volontairement ignorent le Monde Libertaire. Et pourtant, c'est le journal qu'il faut acheter, même si quelquefois, c'est vrai, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt, il y a des articles que nos lecteurs, que nos amis et nous-mêmes discutons, commentons et contredisons. Hein, donc, c'est ça qui fait la force. C'est même l'un des grands principes de notre philosophie anarchiste. Hein. Accepter la contradiction et faire avancer, en effet, non seulement les idées, mais aussi les propositions d'action grâce avec cette contradiction. Alors, on a tendance à dire, ah bah oui, il faut pas contredire parce que tel et tel personnage est sacré, telle et telle idée est indestructible et donc on ne peut jamais y toucher. Eh bien non, hein, nous savons très bien, pour ceux qui ont connu la guerre d'Algérie, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, le ministre en charge de cette guerre appelait ça la pacification. Hein, c'est-à-dire, au fond, la seule façon d'éliminer toute contradiction, c'est d'éliminer celui qui contredit. Et donc, c'est effectivement l'un des grands principes, malheureusement, de la société dans laquelle nous vivons, hein, puisqu'au fond, le mépris des individus, le mépris des règles de respect de la dignité des individus et chose courante dans le système fondé sur le productivisme, sur la compétitivité, sur un langage complètement abstrait. Hein. On vous parle de commerce équitable alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas une miette d'équité. On vous parle même à propos de, je sais pas, aller faire vos courses, il faut que vous soyez responsable, alors que effectivement on fait tout pour vous enlever toute responsabilité. Je pourrais citer des exemples. D'ailleurs, il y a eu un bouquin qui a souligné tous les méfaits de ce langage qui ne recouvre que des réalités contraires à ce qu'il prétend dire, qui est donc mensonger comme l'image que vous voyez dans la publicité. Hein. sans vouloir dire que toutes les images sont mensongères. Elles sont mensongères dans le sens où, en effet, elles suscitent l'interprétation, des interprétations complètement différentes. Avec la même image, on peut vous dire, là, vous voyez, ce sont les flics qui ont été attaqués, comme on va le dire à propos des incidents devant le lycée dans le 14e arrondissement, là où les parents d'élèves ont été et les élèves ont été bousculés par la flicaille. Et puis la même image va vous dire que la réalité, c'est-à-dire que effectivement c'est bien les forces de l'ordre, c'est bien ceux qui représentent un État étranger au droit, indifférent à toute idée morale et simple instrument de force, et la force gendarmesque, policière et militaire, effectivement, c'est le fondement même de l'existence des États aujourd'hui, et dans le système, effectivement, où il s'agit de défendre les privilèges de quelques-uns et de faire taire les autres, de leur faire peur, de les mettre en prison, de les chasser quand il s'agit des sans-papiers, par exemple. Et donc, effectivement, le thème de notre chronique d'aujourd'hui sera centré sur l'actualité de la réunion pour à Rome, hein, vous savez, 60 ou 70 chefs d'État se sont réunis, soi-disant pour prendre en charge et prendre en compte la crise alimentaire gigantesque, la famine qui touche un certain nombre de pays du monde. On aura l'occasion donc d'en dire un mot et de commenter, un peu comme la télé suisse l'a fait, tiens, hier soir, il faut regarder la télé suisse pour avoir quelquefois des commentaires qui ne sont pas du inconformisme écœurant. La journaliste qui était là-bas, je sais plus si c'est à Nairobi, enfin en Afrique, ah non, c'est à Rome, la journaliste suisse qui était à Rome, disait, en répondant à une question d'un des journalistes à Genève, a déclaré très clairement, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'efficacité de ces grands et la réalité de ces grands discours, de ces milliards qu'on prétend vouloir distribuer aux gens qui meurent de faim. On peut d'autant plus avoir des doutes, avoir quelques suspicions sur la réalité de ce qui se passera. Et c'est que traditionnellement, on sait bien que l'aide financière ne va pas au profit des plus démunis, mais au contraire va dans les poches des dictateurs noirs et de leurs amis, noirs ou blancs d'ailleurs. Et elle disait, ce qui m'a frappé en arrivant à Rome, c'est de voir les délégations africaines composées quelquefois de 50 ou 60 personnes avec la femme, les enfants et les cousins et s'installer dans les plus grands hôtels de luxe de la capitale italienne. Alors effectivement, on a là une image très très intéressante de ce que ça représente, une réunion de chefs d'État. Ce que ça représente, c'est-à-dire au fond, en ce qui concerne l'organisation de la justice économique et sociale, c'est évidemment de la poudre aux yeux, sinon plus, hein, c'est-à-dire endormir un peu plus, décerveler un peu plus les gens qui sont les plus défavorisés dans ce monde. Donc, tant qu'on n'aura pas en effet modifié de fond en comble les principes qui nous guident, eh bien, la famine dans le monde, comme on dit, organisée, développée, mise en place et accentuée par le développement capitaliste de la spéculation économique, financière, ne pourra pas évidemment être résolue. C'est donc un des sujets dont on parlera tout à l'heure. Et puis un autre sujet pour distraire un peu notre auditoire, on parlera de la comédie du style Pieds Nickelés ou Tintin, et même Tintin est encore plus drôle, la bande à Tintin et la bande aux chanoines au Liban, hein, vous avez vu ça, quand on dit que droite ou gauche, ça n'a absolument aucun sens, que ceux qui sont en effet mandatés religieusement pour exercer un pouvoir sur notre dos et que nous avons volontairement choisi, élus, sont effectivement loin de se préoccuper du sort des plus pauvres, eux aussi, et ils vont simplement, avec la bénédiction du chanoine du Latran, du père Sarkozy, faire un petit voyage touristique au Liban, hein, avec Marie-Georges Buffet pour le PC, avec Monsieur Bayrou pour le MoDem, avec Monsieur François Hollande pour le Parti Socialiste et avec effectivement les chefs de bande comme de Vétjian ou Copé autour du chanoine du Latran. Alors quand on voit, évidemment, on vaut mieux en rire, mais enfin c'est en même temps un symbole de ce que se représente la politique politicienne, le métier qui n'est qu'évidemment qu'un vol organisé de délégataires du pouvoir populaire, comme ils le disent. Bon, ben, on aura l'occasion d'aborder aussi d'autres sujets, évidemment, notamment peut-être dans le Monde Libertaire, un article intéressant sur les différents films qui ont été présentés à Cannes, et puis quelques commentaires justement sur un film qui a valu la Palme d'Or à des cinéastes français. Entre les murs. Alors effectivement, ça sera intéressant peut-être de voir ce que représente ce film, encore que les interviews du réalisateur étaient un peu du style, quand on lui disait « mais alors vous entrez dans un domaine assez sensible », il répondait en gros « mais non, je fais pas de politique, moi j'ai essayé de montrer objectivement enfin un discours un peu convenu, mais enfin, tant qu'on n'a pas vu le film, on a simplement la vie de notre remarquable commentatrice cinématographique Eike Herst. Alors voilà, je vous laisse en compagnie dans un premier temps de Bobby Lapointe, et puis après on verra si John Coltrane, que nous avons invité ce matin, veut bien prendre le relais. Radio Libertaire 89.4, la voix sans lionimètre, chronique hebdo dans un petit moment, dans un quart d'heure environ.
Thank you.
travailler 10h30 sur Radio Libertaire. On s'excuse auprès de notre cher ami Duke Ellington et de ses compagnons pour cette interruption. Et c'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir d'écouter ces morceaux de jazz, même si effectivement ils sont pas de la dernière mode, ils viennent pas d'être fabriqués il y a quelques heures par quelques musiciens fantaisistes du hip-hop ou de quelque autre musique sérielle. Bon, on va pas faire une émission musicale. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire, que vous écoutez une émission qui a pour objectif de commenter l'actualité, Chronique Hebdo. Et cette actualité, donc tout à l'heure je vous en ai dit un mot vers 10h, cette actualité... C'est le très 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 brutal. On va parler du nucléaire parce qu'il y a une centrale nucléaire qui est en train d'exploser. On est en train désespérément d'essayer d'éteindre les réacteurs dans cette centrale de Slovénie. C'est pas très loin de chez nous, la Slovénie. Hein, vous savez où c'est, ou vous savez peut-être pas, mais dans le temps ça s'appelait la partie nord de la Yougoslavie. La Slovénie touche l'Autriche. Elle a juste une petite frontière nord avec l'Autriche. Elle est pas loin de Vienne. Elle est pas loin du berceau des grands musiciens, justement, la Slovénie. Elle est pas loin de la Suisse non plus. Et donc, elle est pas loin de l'Italie, bien évidemment, puisqu'elle touche aussi presque l'Italie. Enfin, avec simplement un petit couloir de Croatie. Voilà. Bah, faut que vous regardiez quand même votre carte de géographie. Mais disons que c'est quand même l'accident le plus sérieux qui est arrivé depuis Tchernobyl, pour l'instant ça n'a pas explosé, mais c'est même d'après les commentaires qui ont été faits ce matin sur les radios, ce qui m'a d'ailleurs surpris. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les médias ont toujours intérêt à faire peur, comme les hommes politiques qui pratiquent le catastrophisme facilement. Mais en tout cas, ça paraît suffisamment sérieux pour que, d'après toujours les radios aux ordres, pour que tous les systèmes de sécurité européens aient été mis en branle à propos de cet accident nucléaire, donc qui s'est déroulé en Slovénie dans un village dont j'ai oublié le nom, tout près donc de la frontière autrichienne, suisse, italienne, enfin en plein cœur de l'Europe centrale. Je vous rappelle que la capitale de la Slovénie s'appelle Ljubljana. Alors on a Ljubljana. Il y avait même une chanson là-dessus. Alors, Ljubljana. Et alors, premier sujet, le nucléaire. Deuxième sujet, la réunion de Rome. La réunion de Rome qui regroupe une soixantaine, peut-être plus, de chefs d'État de tous les pays, riches ou pas riches. Monsieur Sarkozy, d'ailleurs, a dû y aller y faire un tour pour, évidemment, bien montrer que c'était lui le grand chanoine. Et Rome, c'est ça quand même, sa seconde patrie, puisqu'il est à la fois président de la République française et puis chanoine du Latran, c'est-à-dire un petit garçon de course du pape Benoît XVI. Ce sujet est lié au fait que plusieurs millions de personnes dans le monde en ce moment même, du fait de la spéculation, du fait de la destruction des terres qui servaient à nourrir les populations, ou leur confiscation par des multinationales, ajoutées aux effets climatiques de sécheresse excessive, ou quelquefois même de destruction par inondation, cette espèce de dérèglement du climat, tous ces éléments-là, mais les éléments principaux évidemment sont liés uniquement à la sont liés principalement à la spéculation capitaliste, au fait qu'il faut évidemment engranger des produits comme le riz pour faire monter ses cours. Le prix du riz a augmenté dans des proportions fantastiques, au point que les gens qui ne le peuvent plus le produire eux-mêmes, parce qu'au fond c'est bien ça le grand drame, c'est que on a détruit en quelque sorte les cultures vivrières au profit des grandes sociétés européennes, américaines, des pays riches évidemment, exploitent d'autres cultures, du café, du cacao, des bananes, enfin toute une série de produits qui sont destinés uniquement à l'exportation. Donc ce phénomène là de cette réunion sous la présidence du secrétaire général de l'ONU qui nous dit qu'il faudrait dépenser je ne sais combien 15, 20 ou 50 milliards par an pour essayer de régler le problème de l'alimentation dans le monde et cette réunion de Rome, c'est ce que je disais tout à l'heure, a été évidemment saluée avec des tas d'applaudissements par tous les médias français, mais il s'est trouvé qu'hier j'écoutais la télé suisse et que la journaliste qui est à Rome exprimait certains doutes sur la véritable volonté des chefs d'État africains ou autres de mettre en place un autre système. Elle n'allait pas jusqu'à dire qu'effectivement c'est le commerce international, c'est le productivisme, c'est la confiscation des terres et des produits locaux par des aigrefins, hein, des voyous, des mafieux que sont les multinationales, mais elle faisait quand même une analyse en disant que jusqu'à présent, malheureusement, l'aide qui a été fournie, soit par l'AFAO, soit par n'importe quelle autre organisation, a été plus ou moins confisquée et n'a pas servi, n'a pas été utilisée au profit des populations. Elle n'allait pas jusqu'à dire qu'elle a été confisquée par les petits chefs d'État des pays en question et leurs familles, mais elle racontait un phénomène assez caractéristique. Elle disait la délégation suisse, puisque c'était la Suisse romande, est composée de 7 ou 8 personnes à cette réunion des chefs d'État de tous les pays pour régler la faim dans le monde. Et les pays d'Afrique, disait-elle, envoient des délégations avec le chef d'État plus tous les cousins, toute la famille, les enfants, les femmes, 60 personnes par délégation de certains pays africains, 60 personnes, vous entendez bien, et elle ajoutait... Et ce qui est symptomatique et en même temps tristement symbolique, c'est qu'ils se sont installés dans les hôtels les plus luxueux de la capitale italienne. Donc on peut en effet en conclure, évidemment, elle n'a pas voulu aller jusque-là, mais c'est vrai qu'au fond, il faut regarder la télé suisse. Hein. Elle n'a pas voulu aller jusque-là, mais c'était quand même très symptomatique, c'est-à-dire au fond, à partir du moment... où on est un chef d'État, à plus forte raison quand on dépend des différentes multinationales qui ont confisqué les richesses de votre pays, qui ont affamé vos populations. Mais ces multinationales, évidemment, elles ont intérêt à ce que la situation ne bouge pas du tout et que par conséquent, ceux qui en profiteront sans aller jusqu'à dire qu'ils arriveront à confisquer tous les diamants de l'Afrique, comme le père Bokassa qui en donnait à Giscard d'Estaing, eh bien, on peut dire que malheureusement, la solution n'est absolument pas dans cette voie, parce qu'on continuera sur un mode qui, en effet, a conduit à cette, comme dirait René Dumont, quand il écrivait il y a 50 ans, l'Afrique noire est mal partie, eh bien, on peut dire qu'elle est vraiment très mal arrivée, et ceci du fait même de l'organisation économique capitaliste qui régit actuellement le monde. Alors donc, on aura peut-être l'occasion de parler de ce que propose l'économie qu'imaginent les anarchistes, qu'imaginent par exemple Proudhon quand il écrit le fédéralisme économique, le fédéralisme social, c'est-à-dire en effet des principes qui sont absolument à l'opposé de ce qui se pratique aujourd'hui. D'abord, effectivement, ils sont fondés sur la morale du respect des individus. Il ne s'agit pas de les traiter comme des chiens, de les laisser mourir et crever de faim. Et puis, sur le plan très pratique, ils sont fondés sur le local, c'est-à-dire sur le fait qu'il faut l'autonomie locale des populations. Il faut qu'elles trouvent tous les moyens d'exploiter pour elles-mêmes les cultures vivrières qui leur permettent de survivre. Il faut surtout pas pas non plus que le commerce soit devenu un principe, le commerce international en pratique. Il n'y a pas que Proudhon qui soulignait cette anomalie, ce crime d'ailleurs que Élisée Reclus soulignait à propos du commerce international. On a déjà lu ça il y a quelques mois dans notre émission, mais je crois que ça serait bien de relire ce que Élisée Reclus, géographe, connaissant bien tout le... ayant voyagé un peu dans toutes les parties du monde, a écrit au début du siècle à propos de cette monstruosité que constitue le commerce international, puisque c'est lui qui effectivement permet l'enrichissement de ces multinationales dont je parlais, qui vont conquérir, pas par les armes, quelquefois aussi par les armes, enfin comme par exemple Total en Birmanie ou en Thaïlande, mais qui vont conquérir des terres, chassant, détruisant et obligeant, ce qui est encore plus grave, soumettant finalement les populations locales à notre propre mode d'existence, ce qui effectivement est quelque chose d'absolument criminel, puisque ça veut dire que elles risquent de ne plus être à un certain moment aptes et capables de s'auto-nourrir, de s'auto-suffire. Donc c'est bien en effet un crime contre l'humanité que celui que commettent ces organisations capitalistes. Alors le dernier, Gérard me disait qu'il faut peut-être un peu faire de l'ironie parce que on manque d'humour. Alors lui-même va vous faire une petite chanson sur Monsieur Fillon qui apparemment se fait injurier par le chanoine du Latran. Et puis alors surtout l'affaire Tintin, moins drôle que Tintin, mais tout à fait dans la même ligne. C'est le voyage au Liban de la bande aux chanoines accompagné de la chef du Parti communiste, de la chef du Parti socialiste, du chef des démocrates chrétiens, de Monsieur Bérou, et tous ces gens-là vont aller passer dans un hôtel de luxe à Tripoli ou à Beyrouth, dans je ne sais quelle ville du Liban, vont aller passer un bon week-end pour se distraire. Peut-être qu'ils pourront y aller avec l'avion présidentiel et puis s'installer sur un yacht de Monsieur Bolloré à quelques encablures du port de Tripoli. Voilà le genre de choses qui effectivement doit nous permettre de nous moquer et de désacraliser ces personnages absolument lamentables, mais en même temps de pouvoir en rire. Alors, voilà, Gérard, est-ce que tu avais, toi, d'autres sujets?
Oui, le sujet, peut-être. Alors, on reviendra, puisque la semaine dernière, tu l'as dit tout de suite, ça va être l'un des thèmes de ce matin, puisque la question du nucléaire, évidemment, avec l'accident, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, donc on va revenir sur ce sujet. Et puis, on avait évoqué la semaine dernière aussi une autre affaire. Vous savez, l'histoire, c'est pour ça qu'il faudrait un petit peu d'ironie, beaucoup d'ironie, surtout d'humour pour désacraliser. On désacralisera peut-être un peu, on dira quelques mots ce matin autour de Noël Godin. Noël Godin, l'entarteur, puisque j'en dirai quelques mots par rapport à la possibilité. Eh bien, c'était le salon du livre libertaire. Noël Godin était venu. Je ne pense pas qu'il se soit fait entarter. Donc, on y avait pensé, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois dans cette bagarre. Il faudrait le voir comme ça, parce qu'on aime bien Noël Godin. En tout cas, de dire à la Maxenette l'entartage. Mais l'entartage devient de moins en moins rigolo, en tout cas par rapport aux personnages qui sont entartés, qui deviennent évidemment de plus en plus abjects. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc, on en dira quelques mots par rapport aussi à ce que fait Noël Godin, c'est-à-dire désacraliser un petit peu ce qu'il y a autour de nous, qui fait que entre les personnes, entre les gens, eh bien, il y a une sorte de rigueur de plus en plus qui s'installe, comme on parle de respect, le respect de l'ignominie, et à force de parler de respect, ben tout le monde, on arrive à respecter ce qui n'est plus respectable.
Absolument. Alors, je crois que c'est sûr que le mot respect, il a de nombreux sens. Ça veut dire à la fois considérer l'individu qu'on a en face de soi comme quelqu'un avec qui on doit échanger pacifiquement, qu'on doit pas, si on n'est pas d'accord avec lui, haïr comme le faisait Monsieur Éluard la semaine dernière. dernière dans le monde libertaire, qu'on ne doit pas haïr et que, avec lequel on doit en effet discuter, composer, apporter la contradiction, trouver des arguments pour tenter de l'amener à lui-même après que les concessions qu'on a fait soient, il puisse également les faire. Enfin, donc, cette notion de respect, mais ça peut être aussi, et c'est ce que tu disais, la soumission à une idole. La soumission à une idole, à une vérité absolue, à une transcendance, à quelque chose dont on se dit, ah ben oui, comme celui-là, il est chef d'État, comme celui-là, il est patron de parti, comme celui-là, il est député, comme celui-là, il est professeur, et ben, il faut dire que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit, ben, c'est bien, quoi. C'est ça, sacraliser, hein. Ça veut dire, au fond, ne pas être capable de juger les actions ou les paroles sans tenir compte de l'uniforme que porte l'individu. Son uniforme, c'est la fonction qu'il a plus ou moins obtenue par son travail, dirons-nous, ou bien par ses relations dans la société, qu'elle soit française ou qu'elle soit internationale.
Alors, à ce sujet, donc, la semaine dernière, on avait évoqué, vous savez, la fameuse sortie sur l'égroutier, hein, puisque au niveau de le sujet de l'emploi, le sujet du travail est quand même assez important de la part du chanoine, hein, vous savez, avec le fameux slogan « Travaillons plus pour gagner moins ». Donc, on a évidemment des injures, des insultes, crétins, abrutis, connards, vous savez, c'est tout ça, hein, le vocabulaire choisi, hein, le vocabulaire de Neuilly. Le vocabulaire de Neuilly aussi, vous le savez, c'est « Casse-toi, pauvre con », hein, il y a eu tout n'est pas foutu. Enfin, tout n'est pas foutu, seulement, on avait évoqué la semaine dernière, ces propos, quand même, c'est beaucoup plus grave, hein. Peu de gens l'avaient relevé, c'est-à-dire, l'égrutier, tel qu'il travaillait dans le port de Marseille, 2000 heures par an, un grutier au port de Barcelone ou un grutier au port d'Anvers travaillait 4000 heures par an. Alors,
ça, c'est le discours du chanoine.
Voilà, du chanoine. Et puis, bon, le canard enchaîné avait un petit peu décortiqué en montrant que ça faisait 16 heures, enfin 16 heures par jour sans congé. Donc, c'était une aberration les plus totales. Mais c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas. Puis, habitué à dire n'importe quoi, hein, personne ne reprend.
Ah ben oui, à propos de n'importe quoi, j'entendais Lagarde ce matin qui disait une grande nouvelle positive, c'est que le chômage a baissé.
Ah voilà,
c'est le trucage des statistiques.
Le trucage de l'INSEE. L'INSEE, évidemment, la statistique du mensonge permanent, hein, puisque la statistique, c'est la science du mensonge, la technique plutôt que la science. Mais en tout cas, alors voilà, histoire, moi j'avais appelé ça histoire de prostitution. Histoire de prostitution pour les groutiers, pourquoi? Parce que le canard enchaîné nous dit que le verbatim, en tout cas ce qui sert de site internet officiel de l'Élysée, hein, c'est très sérieux, a caviardé le chanoine en faisant dire, voilà, parce qu'ils se sont rendus compte de l'ineptie, évidemment, c'était quand même un verbatim, hein. Verbatim, c'est enregistré, officiel, alors je ne sais pas si ça devait être reproduit au journal officiel. En tout cas, l'Élysée, en ce qui concerne le conseil de surveillance de l'Élysée, a changé le texte en disant, eh bien, c'est plus un grutier, mais c'est une grue du port de Marseille qui travaillait 2000 heures, et c'est une grue du port d'Anvers et de Valence qui travaillait 4000 heures.
Qui travaille toute seule.
Alors, la grue, je sais pas ce que c'est, Jacques. Alors, tu sais qu'en argot, hein, en argot, en populaire, une grue, vous savez, par rapport aux oiseaux grégaires, hein, aux oiseaux, le pied de grue, eh bien, c'est les prostituées. Alors, je ne sais pas, hein, autour de Monsieur Sarkozy, de demander autour de lui, parce que c'est vrai que cette histoire de travail, hein, cette histoire de Mac plutôt, et cette histoire de prostitution, enfin on peut la voir comme ça, peut-être qu'une grue du port de Marseille, alors je ne sais pas si c'était par ironie, hein, qu'on a transformé ça, puisque ça ne veut plus rien dire, hein, ça ne veut plus rien dire, là c'est une machine qui travaillerait à la place d'une personne, hein, alors elle serait automatisée, ça veut dire que la profession des grutiers doit disparaître. Alors en tout cas, j'avais envie de dire, ben, on nous en a parlé souvent des grues, hein, parce que c'est vrai que dans cette société, en particulier de la haute société, peut-être avec celui qui vient de disparaître, un couturier refroidi, là, hein, c'était quand même le titre du monde qui prenait toute la place, hein, c'est-à-dire quand un couturier refroidi. Et pour les grues, eh bien, on ne sait pas, les grues du système capitaliste et les grues de la haute, combien d'heures de travail ces grues travaillent-elles, hein, qu'on faudrait poser la question. Alors voilà où on en est. Évidemment, ça peut paraître comme ça deux petites choses, mais c'est quand même relativement important pour montrer la déliquescence. On ne fait plus attention à rien. Et du même coup, c'est vrai que on relève, moi je relevais un petit peu dans l'actualité, des choses relativement graves, on va en parler ce matin, comme la disparition. Et ça, c'est la biodiversité. Et ben, ça faisait deux petites lignes, évidemment, sur le quotidien de référence et de révérence, Le Monde, le quotidien vespéral des marchés. Et en première page, toute une page sur un mec hein, qui a habillé les grues. En fait, ce que c'est qu'il faudrait un jour, Jacques, qu'on le fasse un petit peu un sort à cette mode, à cette haute couture, pour voir ce qu'elle représente dans le système de la société du spectacle, l'importance qu'elle peut avoir, et ça a certainement de l'importance puisque ça sert à occulter si la biodiversité est en danger, hein, c'est-à-dire les espèces animales et végétales qui disparaissent, on va le dire comme ça, à la vitesse d'un cheval au galop, hein, la vitesse de cheval au galop, vous savez, pour l'histoire du Mont-Saint-Michel, eh bien, en tout cas, ça ne fait qu'une petite ligne, ça n'intéresse personne, mais un mec, donc, qui a fait du boulot, qui a habillé, évidemment, les princes, les princesses, et puis les grues de la haute société, puisqu'on nous parle des grues,
hein, il
va certainement, et puis ça avait évidemment l'importance, d'où l'importance de ce que l'on disait ce matin, la désacralisation, hein, évidemment, de tout ça, de tous ces personnages infatués, hein, de leur ego surdimensionné, et puis tous évidemment entre suffisance, hein, comme disait l'autre, eh bien ils se congratulent,
certaine façon c'est même je comprends pas d'ailleurs que les journalistes il y en ait aucun qui même si il est pas anarchiste qui regarde ça d'une façon un peu critique, parce que faire comme tu le dis une page entière sur la gloire de ce couturier qui effectivement simplement pris le relais d'une autre maison de couture il y a un certain nombre d'années, et qui s'est amusé, qui a amusé la Jet Society
faire
une première page entière sur ce sujet-là, alors que à côté, on a des millions, des dizaines de millions de gens qui crèvent de faim, et que les fantaisistes qui se réunissent à Rome vont encore accroître cette pauvreté, cette misère et ces famines. Eh bien, je pense que au moins faire une entière page sur la faim dans le monde, avec un petit entrefilet pour signaler à la Jet Society qu'un de ses hommes a disparu, ça devrait être la logique d'un journal. Ou alors ça veut dire que lui aussi les paillettes ça l'intéresse, mais les véritables problèmes tragiques que vivent non seulement les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire les Français, les Européens, mais que vivent encore plus durement les autres peuples des pays du monde, et bien que ces sujets-là, que ces questions-là, on peut les laisser tout à fait à l'extrême, dans un petit coin, comme les faits divers. Mais on préférerait en effet montrer les paillettes Saint-Laurent, ou montrer le fait divers de ce pauvre petit garçon qu'on a trouvé noyé dans un étang. Alors ça, on va en parler, faire des photos, en parler pendant des jours et des jours. Tout ceci, en effet, dans un objectif plus ou moins conscient, malheureusement, on peut penser que les journalistes sont même conscients, de masquer ce qui se passe, et de mépriser en quelque sorte tous ceux qui se disent mais on peut pas continuer sur cette voie-là, et qu'il est absolument indispensable de trouver une autre méthode, alors que les hommes politiques et que les médias fassent tout un discours lénifiant pour dire ah ben oui j'entendais ça ce matin, vous savez les marchands, les fabricants d'automobiles, Toyota et compagnie ont décidé de faire des efforts pour trouver une voiture moins polluante, telle société américaine a décidé de ne plus fabriquer les 4x4 parce qu'ils polluent. Mais tout ceci, c'est de la poudre aux yeux. C'est parfaitement ridicule. Ça veut dire que les 4x4, si on les fabrique plus, eh bien, dans le système spéculatif et financier, ils vont prendre de la valeur, et il y aura bientôt des fonds de pension qui s'appuieront à faire ça. Donc,
Jacques, alors le sujet, donc peut-être la question du nucléaire, donc on va peut-être en parler tout de suite après, parce qu'on fait une petite partie musicale. Alors juste avant la partie musicale, tu l'avais évoqué, l'histoire du gouvernement ou du lycée Papillon. Si on passe cette chanson-là ce matin, en relation peut-être avec un gouvernement Papillon...
Et... Oui, ça serait bien, mais oui. Ce qu'il faudrait, c'est quand même que tu ne traites pas comme le chanoine l'a fait, parce qu'effectivement, nous sommes soucieux d'éviter les insultes.
Surtout
les grossièretés
que...
qui ne sont pas fondées sur des idées stupides ou fausses, éviter que, comme le dit le canard enchaîné, Monsieur Sarkozy, de je ne sais quoi, de je ne sais où, de Hongrie, a traité son premier ministre d'abruti et de con.
Alors Sarkozy de Nagui Boxa, rappelons-le, hein, tu vois, c'est les sujets à particules. Eh bien, on va faire un petit peu d'ironie. Alors, juste avant de passer cette partie musicale, là aussi, tu le sais peut-être, Jacques, tu l'as lu, il était question dans ce journal, vous savez que vous pouvez lire de la princesse de l'Élysée, hein, puisque deux petites anecdotes, on parlait qu'il voulait poursuivre la presse en justice pour offense à chef d'État. Alors ça s'est fait, vous le savez, dans différents pays d'Afrique, hein, offense à chef d'État, mais donc ça lui vient quand même, parce que les fréquentations d'aller de temps en temps voir les roitelets de là-bas. Alors, en tout cas aussi, il faut le signaler, Sarkozy, soleil rouge de notre cœur, eh bien, les maoïstes, on en avait parlé aussi un petit peu la semaine dernière, hein, en ce qui concerne une partie du monde où le Népal, où le roi a été éjecté par un commando, on va le dire comme ça, par une bande de Mao, et qui disent, écoutez bien, nous voulons un régime présidentiel fort avec un premier ministre, bref, une république à la française. Alors, entendre des Mao solliciter...
Ah ben, on en a des anciens, quand même. Hein.
Alors, et là, Jacques, je termine. Alors, ces jours-ci, rue du Commando Post, alors, il mettait « Vive la République ». Alors, les nouveaux dirigeants du Népal, hein, comme on vient de le dire, donc, nous envient, et envient en particulier ce régime constitutionnel, hein, tel qu'il est. Alors, réformé, on va pas en parler. Donc, Premier ministre et régime présidentiel. Fort. Alors il disait, le président, évidemment, le canard enchaîné par rapport à ça, Moi a été plébiscité par les Mao. Alors voilà, ça c'est une... Alors injure, je ne sais pas, en tout cas, offense plutôt à chef d'État. Alors offense à chef d'État, donc... plusieurs affaires, hein. En particulier, donc, vous voyez ce qu'on voulait parler ce matin de ce gouvernement Papillon, hein, on le mettra peut-être, cette chanson, en référence, on va le dire aux auditeurs, on l'a passé quelques fois, le lycée Papillon, ça a quand même des dizaines d'années, et puis vous verrez que les analogies, un petit peu avec la chanson, et on n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction, au gouvernement Fillon. Alors ça, Jacques, c'était l'analogie. Et pourquoi ? Parce que je voulais dire juste avant quelques mots, comme j'avais dit, de Noël Godin, hein, la possibilité. Alors la liste est relativement amusante. Vous pouvez voir ça, je vous encourage. Si vous avez Dailymotion Internet, hein, comme on dit Dailymotion, on va parler donc la langue de là-bas, ou vous YouTube, hein, vous pouvez aller voir ça. Vous allez sur le site de Noël Godin ou le site Gloop Gloop. Hein, c'est facile parce que Gloop Gloop, avant d'entarter, Noël Godin pousse son cri avec ses commandos d'entarteurs, le mot Gloop Gloop. Alors, là aussi, vous pourrez voir quelque chose de formidable parce que ça rejoint ce que je disais par rapport à offense aux chanoines de Latran. Donc dessus, vous pourrez voir des morceaux d'anthologie. Bill Gates a été entarté avec entarton, le polluant pognon. Hein, voilà. Le premier de la classe, c'est celui qui a été entarté cette fois, BHL. On va pas dire son nom. Entarton, les pompeux cornichons. Hein, voilà. Un ancien, peut-être qu'on a un peu oublié, Douste Blasi. C'était entarton, les ministres bouffons. Un autre qui a disparu aussi, vous savez, c'était Toscan du Plantier, Jacques, tu te souviens peut-être.
Oui,
entarton, les pontifiants croutons. Et puis, un qui a disparu il n'y a pas longtemps, Pascal Sévran, je ne sais pas s'il y a suite à un tartage. Entarton, le chancre aux chansons. Et puis, Patrick Poivre d'Arvor, je vais terminer après par le plus beau, Patrick Poivre d'Arvor, en tarton, le pire des fauchetons. Je crois que c'est pas mal. Et puis, là aussi, vous verrez, évidemment, eh bien, le Sarko, hein, il a été entarté, hein, il faut quand même le signaler. Donc, Sarkozy a été entarté, et là, c'était en tarton, les cracks nauséabonds. Alors, à vous de juger, d'apprécier. Et vous verrez, si vous voyez ce petit film à la Max Sennett, hein, donc, malheureux, c'est à la fois aussi bien, puis en même temps moins bien, parce que par rapport, les acteurs sont nettement moins bons, et ben vous verrez les petits signes d'épaule, hein, le petit relevé d'épaule du chanoine de Latran, par rapport à ces petites vidéos qui sont quand même significatives, intéressantes, par rapport à l'ensemble du ridicule, évidemment, de l'ensemble des personnages, certains de ces personnages que je vous ai cités. Voilà, Jacques. Donc, avant d'entamer des choses plus sérieuses, plus sérieuses tout à l'heure, donc sur la question du nucléaire, hein, parce que voilà ce qui s'est passé en Slovénie avec la centrale nucléaire, hein, par rapport à cette information. Donc, on revient sur cet événement et puis évidemment relié à ça l'histoire, en fait, ce qui s'est passé aussi avec la FAO et de voir la question évidemment fondamentale première, hein, qui revient aussi. Ça, on est vraiment sur la fin dans le monde. Et les propositions, hein, les propositions, on pourrait dire minables de l'ensemble des politiciens de cette planète qui, comme je te disais ce matin, avec la Banque mondiale, depuis 25-30 ans, ont plongé la planète dans un véritable désastre. Non seulement c'est un désastre économique, mais c'est un désastre au niveau simplement des gens, de leur propre survie, qui ne peuvent plus bouffer, puisqu'on le parle de 800 millions à 1 milliard de gens, hein, qui crèvent de faim. Voilà. Vous êtes dans l'émission Chronique Hebdo, le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Faudaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qui est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le poule à belle-mère qui bave sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est la morue Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrelat,
présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon.
Bon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire et effectivement, une auditrice nous rappelait que l'information qu'on a donnée d'ailleurs et qui a été donnée ce matin par les différents supports médiatiques, comme on dit poliment, c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire en Slovénie est en train de tout doucement répandre sa vapeur d'eau qui, d'après les journalistes de la radio, une vapeur qui n'est pas radioactive, donc surtout vous inquiétez pas du tout. Et puis l'autre information qu'on savait également, c'est qu'apparemment cette centrale qui avait 25 ans n'était pas encore considérée comme un maître à la poubelle, mais que les réacteurs, c'est ce que j'entendais aussi sur France Inter, les réacteurs ne sont pas encore éteints et qu'il y a des gens, hein, des travailleurs, hein, qui essayent de les arroser pour les refroidir et pour pouvoir enfin entrer dans le périmètre, comme on dit, de sécurité avec leur avec leur protection pour aller essayer de réparer cette vieille machine. Et pourtant, j'entendais aussi dire que c'était pas le premier modèle. Enfin, c'était un modèle soi-disant plus perfectionné, enfin plus facile à maîtriser, semble-t-il, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, c'est vrai que ça a déclenché sur le plan européen l'alerte générale sur ce sujet-là. Donc, c'est vrai que les pro-nucléaires nous ont toujours dit, de toute façon, j'entendais encore ça, de toute façon, quelle que soit l'activité humaine, il y a des risques, il faut savoir les prendre. Et puis d'autre part, oui, évidemment, ils n'ont pas été à Tchernobyl. Et puis d'autre part, comme il y a de moins en moins de pétrole, c'est ce qu'on dit en ce moment, ou qui va être de plus en plus cher, il va falloir développer l'énergie nucléaire. Donc c'est vrai qu'on a malheureusement à peu près partout dans la classe politique, y compris d'ailleurs le parti des Verts qui n'a jamais continué. Mais c'est vrai que maintenant, on entendait une sénatrice verte, Madame Voynet, maintenant à France Inter, parce que elle est maire de Montreuil et qu'il y a eu des affrontements avec la police qui voulait récupérer encore une fois pour les chasser des sans-papiers. Mais disons que l'officine politicienne du Parti des Verts, comme dans tout parti, n'a jamais continué la bataille qui avait été entreprise à l'origine. Je me rappelle des premières manifestations avec Fournier, avec le journal La Gueule Ouverte à Fessenheim. Hein. Alors ça date de 30 ans, mais disons que ceux qui ont en effet souligné à quel point une société nucléaire ne pouvait être qu'une société à risque, une société policière, une société dans laquelle la militarisation des individus, l'organisation de la peur, d'ailleurs, hein, on peut se demander si, indépendamment du succès technique, scientifique, technologique dont se vantent tous les savants et tous ceux qui travaillent dans le nucléaire, vous vous rendez compte, on a réussi à faire de l'énergie en faisant exploser un atome. Eh bien, je crois que, indépendamment de cet aspect, j'allais dire aveugle, hein, c'est la science sans conscience, c'est l'aveuglement total, avoir osé mettre en place, et puis en plus dans des proportions considérables. La France est d'ailleurs le premier pays dans le rapport entre le nombre de sites nucléaires et sa superficie et sa population. Nous sommes en effet, nous sommes les champions. Alors les tenants de l'ordre établi, bien sûr, vont dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire si on... Ben, évidemment, ça va pas pouvoir se faire en quelques années, compte tenu de cette espèce de demi-siècle dans lequel la folie des hommes nous a engagés dans cette aventure terrifiante. Alors pour l'instant, on nous dit, ah ben vous voyez, il n'y a eu que Three Mile Island aux États-Unis, il n'y a eu que Tchernobyl, il n'y a eu que... c'est pas si grave que ça, du moment que ça nous touche pas nous, et puis que vous viviez un peu dans la terreur, vous serez un peu plus soumis, que comme on le fait autour des sites nucléaires en France, on vous distribue tous les ans des petites pastilles pour le cas où il y aurait une explosion, et ça va sûrement vous protéger, vous et vos enfants. Donc ça vous entretient dans une espèce d'insécurité et qui effectivement est tout à fait propice au développement d'une société, d'une administration complètement militarisée, complètement qui vous fiche, qui vous colle un passeport biométrique, comme on dit, qui vous met, comme pour les vaches, une petite pastille dans le nez ou bien dans l'épaule pour vous suivre un petit peu partout où vous serez, parce que vous êtes par définition non seulement un esclave qui doit être soumis, mais qui, s'il se révolte, doit être évidemment, s'il est étranger, chassé, et s'il est autochtone, et bien mis en prison. Je crois qu'on est, en effet, dans cette structure. Alors et ça rejoint d'ailleurs cette explosion du nucléaire, ça rejoint le deuxième sujet qu'on a abordé.
Ce sujet-là, voilà. Alors, je voulais vous parler de ça, justement, des précisions. Alors, ce que tu disais, hein, cette analyse-là, puisque s'il se produit avec cet accident, pour le moment, on parle d'incident, accident, on ne sait pas trop, hein, par rapport à des rejets, comme on appelle ça, des effluents, qui ne seraient peut-être pas radioactifs, mais en tout cas, l'alerte européenne a été un peu activée. Alors, je voulais vous dire ça ce matin. Vous savez que on a parlé souvent de cette question-là, du nucléaire, l'importance que ça peut avoir. Aussi, vous le savez, énergie nucléaire, hein, société totalitaire, société policière, donc on le voit, c'est-à-dire aussi faire dépendre chacun d'entre nous, eh bien, du bon vouloir, hein, des autorités de plus en plus. On va le voir ce matin, je vais vous dire quelques informations, les dernières, toutes chaudes, et qui sont, c'est le moment de le dire, évoquées, tout du moins relaté dans la Gazette nucléaire. Alors rapidement, je vous dis que la Gazette nucléaire, on en a parlé souvent, hein, dans cette émission Chronique
Hebdo. On a même invité ça.
Voilà, avec la directrice de la publication, Monique Senet. Et puis, rappeler que c'est un trimestriel, ça peut un peu plus de 30 ans. Évidemment, c'était un peu pour faire la nique, hein, pour répondre au lobby du nucléaire, et en tout cas avec un regard, là aussi, puisque c'est une publication du groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, avec des informations assez pointues, assez techniques, assez scientifiques. Donc c'est une revue, je vous le signale, si certains auditeurs sont intéressés, vous pouvez prendre contact avec la Gazette nucléaire. Je vous donne leur adresse, 2 rue François Villon, c'est 91 400 Orsay, 2 rue François Villon, 91 400 Orsay. Alors rapidement...
Vous avez dit quoi à la fin, Orsay ?
Orsay, voilà. C'est juste à Orsay, ben, ça se trouve pas loin de Saclay, évidemment. Alors, des personnes qui ont travaillé dans le nucléaire et qui se sont rendues compte, hein, il y a 30 ans, puisque Monique Senet, quand même, faut le rappeler, était intervenue, vous savez, la fameuse histoire du nuage de Tchernobyl. Hein, le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté, vous savez, aux frontières de l'Hexagone. Hein, là encore, ça a duré pendant un mois. Il y avait tous les menteurs de l'époque. Il y avait le Madeleine, il y avait le Chirac. Alors... rappelons de ça, c'était en 1986, et voilà les dernières nouvelles. Alors l'éditorial, c'est la Gazette nucléaire du mois de mai. L'éditorial commence par « Tout va bien pour la planète ». Nucléaire, le Grenelle va sacrer cette énergie renouvelable. Écoutez bien, mais cela ne changera pas le fait qu'il s'agit d'un minerai, donc non renouvelable, ce que l'on nous dit pas, hein, l'histoire du minerai, c'est-à-dire que là, c'était aussi le coup d'arnaque pour la France, c'était de vous dire que c'était inépuisable. Eh bien, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'indépendance au niveau du minerai, puisqu'il faut aller le chercher. Il y a plusieurs mines en Afrique, dans des conditions, évidemment, là-bas, on se doute des conditions d'extraction, puisque ici, ça a été lamentable, il y a énormément de zones polluées pour aller vite, et là-bas, en tout cas, les gens qui travaillent là-dedans, eh bien, s'ils sont radioactifs, c'est pas très grave, hein, puisqu'ils sont déjà pas de la même couleur, hein, souvent ceux qui travaillent là-bas, que ceux qui travaillent ici. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, on s'est bercé d'illusions. Là, encore une fois, on vous a bercé d'illusions sur l'énergie à gogo, sur l'énergie pas chère et sur l'énergie propre. Alors, comme énergie propre, il n'y a pas plus dégueulasse, il n'y a pas plus pourri que l'énergie nucléaire. Alors, la Gazette nucléaire nous rappelle que la France, ça va devenir la poubelle nucléaire mondiale, puisque des déchets, vous savez, les Français sont les plus forts du monde, ils veulent en faire de l'or, hein, avec les déchets nucléaires. En particulier, c'était l'histoire de l'uranium, de le recycler et de faire du plutonium, comme tout pour l'histoire du surgénérateur qui a été un fiasco monumental. Et donc, on n'est pas encore relevé, vous savez, l'histoire de ce surgénérateur de Crémalville.
Dans l'hiver, là-bas, voilà. À Crémalville, ah oui. Et alors, dont on peut penser que si on doit le... puisqu'il est inutile, s'il faut s'en débarrasser,
ah ben on s'en débarrasse,
ça va coûter, là encore, voilà. Des fortunes.
Des fortunes et des dizaines d'années. Alors, voilà, Jacques, un récent décret vient de légaliser le stockage des déchets, comme on dit, étrangers. C'est-à-dire, l'ensemble des déchets de la planète viendront se faire recycler ou stocker en France. Alors, nous sommes rassurés, nous dit-on, puisque Greenpeace dépose un recours au Conseil d'État. Alors, Greenpeace veille, hein, vous le savez. Alors, voilà un peu, rapidement, l'évolution de la doctrine de l'industrie nucléaire. Note de mauvaise humeur, hein, c'était un rédacteur de la Gazette qui s'appelle Raymond Senet. Alors, il nous dit que dans les années 50, l'idée... l'énergie nucléaire permettait de produire de l'énergie en quantité limitée, quasiment gratuite, les années 50, comme tu l'as rappelé, Three Mile Island 79 et patatras, évidemment le plus grave avec tout un tas d'accidents et d'incidents hein, dont on a très peu parlé, Tchernobyl. Alors Tchernobyl, catastrophe, des millions de gens ont été irradiés, ce qu'on voulait dire, hein, l'avenir radieux. Donc ça s'est fait en Ukraine et en tout cas pour l'Europe, et on l'avait rappelé la semaine dernière, il y a un an et demi du côté de Stockholm, un accident très grave, il y a un an et demi au mois de juillet, on l'a encore escamoté. Alors la nouveauté, voilà un peu la nouveauté. Pas être trop long ce matin hein, pour ce sujet. On pourrait traiter évidemment d'une émission de Chronique Hebdo sur l'ensemble de ce sujet. On est passé à un accident qui n'arriverait pas, un accident possible. Et la nouvelle doctrine, c'est plus que l'accident est possible, mais c'est que l'accident est certain. L'accident va arriver. Alors voilà la nouveauté. Si l'accident va arriver, eh bien il faut créer une institution, tout du moins un comité directeur, puisque c'est toujours directeur, ou un comité qui va s'occuper de la gestion de la phase post-accidentelle. Et la nouveauté, voilà, hein, pour les auditeurs, enfin je pense qu'il n'y a pas trop de gens qui sont au courant de cette affaire. Hein, voilà, je vais vous dire ça. Alors je vous raconte ça rapidement quand même ce matin, on va pas être trop long. Ça s'appelle le CODIRPA. CODIRPA, hein, comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique. Alors voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ça va arriver. Et en particulier, l'EPR, on nous le rappelle dedans, eh bien pour l'EPR, c'est exactement la même chose. Hein. On est passé finalement d'un système ancien, hein, on nous disait, pour l'histoire de l'EPR, qu'il n'y aurait pas de type d'accident, et finalement, c'est une sophistication des réacteurs précédents, ni plus ni moins, par rapport à l'EPR. Et un accident grave, hein, puisqu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière, un accident grave, c'est ce qu'on a essayé de faire croire, hein, European Pressure Reactor, hein, Jacques, j'essaie de le dire, parce qu'on va dire comment est-ce qu'ils connaissent un peu le sujet, ben oui, un petit peu, ça veut dire réacteur européen, pression, nouveau réacteur européen, hein, pour E. Pour le P, c'est pressure, ça veut dire pressurisé, réacteur, nouveau réacteur. Alors, on vous vend l'EPR en vous disant que par rapport aux anciens modèles, eh bien, celui-là, il sera sans danger. Évidemment, c'est une escroquerie parce qu'il n'y a pas eu tellement de modifications. Et ce qu'il y a de beaucoup plus grave, c'est que la puissance, par contre, elle sera surmultipliée. Alors, l'accident, c'est ce que l'on dit, voilà, il est possible. Donc, par rapport au... Alors, là, encore une fois, Raymond Sonnet, voilà ce qu'il nous le dit. De nombreuses réunions de groupes de travail et au niveau européen ont lieu actuellement. Un volet particulier y est étudié, l'acceptabilité par les populations du nucléaire. Vous rigolez, dit-il. Non, bien sûr. Il s'agit pas d'accepter le père, il s'agit d'accepter l'accident qui se produira. Voilà un peu sur quoi on est pas, non mais c'est quand même, c'est pas, je sais pas, un scoop, en tout cas je crois que si, hein, cette information là a pas beaucoup été relatée, hein, c'est vraiment un peu confidentiel, parce que vous savez qu'on l'a dit souvent, pour le nucléaire c'est classé un peu secret défense. Alors voilà la situation. Donc on est donc passé, écoutez bien, en une quarantaine d'années, de la sûreté absolue à l'accident possible, puis à l'accident certain, tellement certain qu'il faut travailler non pas la sûreté pour l'éviter, mais l'acceptabilité et son occurrence par les populations. Et Raymond Sonnet termine, et si on arrêtait le nucléaire ? Voilà, Jacques, je voulais dire ça quand même ce matin.
Oui, c'est vrai. C'est très important. Oui, il est certain que les gens qui disent on est obligé de l'accepter, on n'y peut rien. C'est un peu comme les mêmes qui disent on fait pas de politique, donc on va rien bouger, on va rester tranquillement dans nos pantoufles derrière nos fenêtres, comme le dit une affiche de la CNT. Mais ce phénomène, ce qui effectivement, pour arriver à repartir sur de nouvelles bases, ça prendra de longues années, puisqu'effectivement le mécanisme enclenché et qui conduit nécessairement, comme tu viens de le dire, à un accident quasiment inévitable, avec en plus, pour que les choses se passent très bien, une propagande pour que la population civilisation accepte, ben oui, il faut bien vivre radieusement, comme tu le disais tout à l'heure. Donc tant pis, on sera rayonné, nos enfants seront marqués, ils mourront, mais enfin faut l'accepter. Hein, donc voilà le genre de discours que font ceux qui en effet savent plus ou moins cyniquement qu'ils conduisent le monde à son explosion, à sa disparition. Donc effectivement, dans la mesure où ils peuvent plus changer de cap, c'est comme une voiture lancée à toute vitesse et qui a perdu ses freins. Donc effectivement, s'il n'y a pas un soulèvement suffisamment vaste des populations pour arrêter ce cataclysme capitaliste, il est certain que on est sûr de vivre ces moments dont tu parlais et qui sont préparés, mis en place par les autorités, évidemment pro-nucléaires.
Le grand secret, là aussi, on peut dire. Alors, que par rapport à l'ensemble des populations, c'est qu'elles ne sont jamais invitées à la table. C'est la nouveauté. Avant, il y avait des fameux décrets bidons, c'est-à-dire qu'on faisait des enquêtes d'utilité publique, vous vous souvenez, ça c'est la tarte à la crème, l'enquête d'utilité publique où chacun pouvait donner son avis, mais on s'en foutait de l'avis de la population, et donc la population la convoque même plus, puisqu'elle est plus à même d'écouter ou de comprendre la dangerosité. Et Jacques, je voulais quand même juste préciser, hein, ça dure pas très longtemps, précision un peu scientifique, un peu technique, mais c'est important pour voir que c'est pas des petites choses écrites ça et là, et qui pour amuser un petit peu, dire oh bah vous faites un petit peu peur dans cette affaire-là. Eh bien, simplement, l'EPR, de le préciser, hein, puisqu'il est en construction, il y a eu une manifestation, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu à cette manifestation. C'est vrai que l'ensemble des médias, là encore, vous vous souvenez, ça va très vite, on en a très peu parlé, hein, de la manifestation de Cherbourg. Eh bien, l'EPR naît par rapport aux réacteurs des paliers 900 et 1300 mégawatts. Qu'une petite évolution du même style que celle qui fit passer des réacteurs graphite-gaz de Chinon 2 et 3 et Saint-Laurent 1 et 2 à celui de Bugey. En fait, écoutez bien, de troisième génération, c'est une ressucée de la seconde en beaucoup plus dangereux. Voilà un peu l'analyse, hein, c'est de gens qui travaillent dans le nucléaire, qui connaissent bien le sujet, et comme je vous dis, c'est publié avec de nombreux articles, hein, un peu techniques, dans la Gazette nucléaire du mois de mai 2008, et qui est en phase, malheureusement, avec ce qui est en train de se passer là en Slovénie. Voilà.
Et alors moi, je voulais dire que, évidemment, c'est en projetant cette réalité d'une société complètement nucléarisée, d'une société qui, bien que le nucléaire ne représente, paraît-il, sur le plan mondial qu'un pourcentage relativement réduit des producteurs d'énergie, de la production d'énergie, c'est tout de même une espèce d'immense arme d'une dangerosité telle qu'on ne peut pas dire que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont des choses véritablement opposées, puisqu'effectivement, que vous soyez détruit par une explosion du type Tchernobyl ou que vous soyez détruit par une bombe que va vous envoyer sur la gueule un État, quel qu'il soit, iranien ou états-unien, c'est évidemment toujours la mort qui est le projet de l'organisation et de la philosophie de la société actuelle dans laquelle nous sommes. Mais ce qui est symptomatique aussi, c'est et très lié à cette réunion de Rome sur la misère du monde, sur l'augmentation de la faim, l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de millions de populations qui sont obligées soit de se déplacer vers les villes parce qu'on leur a confisqué leur terre, obligés d'aller augmenter la population des bidonvilles, des banlieues, un peu partout dans le monde, leur détruisant la possibilité à une échelle fantastique, parce que l'exode rural qu'on a connu sur presque un siècle en France, en un demi-siècle On le dit souvent, les paysans français qui étaient 3 millions et demi ne sont plus que quelques centaines de milliers aujourd'hui, et encore dans ces quelques centaines de milliers, il y a ce qu'on appelle l'agro-business, hein, c'est-à-dire les très grosses exploitations industrielles de la paysannerie qui fabriquent des produits évidemment qui n'ont plus aucune qualité satisfaisante. Effectivement, le seul problème qui a été abordé, c'est comme ils sont de mauvaise qualité, il faut développer les contrôles et l'hygiène, ce qui fait qu'effectivement la surveillance, en quelque sorte, le choix même des produits à planter ou à semer fait l'objet d'une police administrative considérable, au point que les paysans, y compris même ceux qui sont entrés dans le moule de la FNSEA, les grosses exploitations, se considèrent plus comme véritablement autonomes. Ils sont dans la chaîne industrielle, dans la chaîne chimique, dans la chaîne fait en sorte qu'ils n'ont que à appliquer des réglementations, des décisions. On leur prête de l'argent s'ils achètent des machines très compliquées avec un amortissement long. On les oblige à planter ceci, à arracher cela, à laisser ceci en friche. Enfin, on leur paye leurs produits d'une façon artificielle. J'entendais ça aussi à propos de la réunion de Rome. En ce moment, on disait, mais au fond, on a aidé les paysans d'Europe, les paysans en payant les produits beaucoup plus chers que le prix mondial, ce qui effectivement a ruiné les petites économies des pays d'Afrique ou des pays d'Asie, puisque eux produisaient à un prix qui était différent et ne pouvaient évidemment plus vendre leurs marchandises. Et à propos de vente et à propos d'autonomie des populations, parce qu'au fond c'est de ça qu'il s'agit, le nucléaire est une monstruosité comme les tours que veut construire monsieur Delanoë à Paris. Le nucléaire est le mode de fonctionnement d'une société concentrationnaire et d'une société hiérarchisée, c'est-à-dire que en effet il faut des tas d'instances, d'administration, de police, hein, les premières centrales que j'ai vues, je sais plus maintenant, elles étaient entourées par des barbelés et des chiens policiers. Maintenant, je suppose qu'il y a aussi des ceintures électrifiées et des militaires un peu partout. Donc, c'est une société militarisée, mais c'est surtout une société fondée sur la concentration, sur la démesure, sur le gigantisme et de façon à tuer l'initiative individuelle. Et c'est bien sur ce sujet-là que, quand on parle de la faim dans le monde, ça n'est pas en continuant à avoir une société fondée sur le gigantisme, qu'il s'agisse du nucléaire ou qu'il s'agisse de la concentration des industries, des commerces et des finances, si on continue dans cette voie-là, quand on voit que la bourse, tous les jours on a des cours de bourse pour nous indiquer que telle ou telle société a réussi à absorber telle ou telle autre, eh bien je crois que c'est cette organisation-là qui provoque la faim dans le monde. Il est certain que cette organisation, sauf à s'auto-détruire, à se suicider, ou à accepter en effet de reconnaître son échec monstrueux sur plus d'un siècle de capitalisme, elle ne peut que continuer dans cette voie. Elle prétend, et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle prétend que on va donner 15 milliards aux pays qui sont en détresse actuellement dans le monde, 15 milliards par an. Mais qui va les donner? Qui va les recevoir? Voilà la question qui n'est jamais posée. On sait très bien que ceux qui les donneront, ce ne sont pas ceux qui se font des parachutes dorés comme tous ces PDG plus ou moins mis en garde à vue et qui s'en sortiront toujours. Ce sera évidemment les classes moyennes et les classes qui ont encore un peu de possibilité de paiement. C'est sur elles que ça portera, au détriment de leur santé, d'ailleurs, au détriment de leur capacité de se nourrir correctement. Mais ceux qui recevront, c'est pareil. C'est ce que disait la journaliste suisse, sans le dire véritablement, mais quand elle racontait ces familles de dirigeants, de petits rois africains qui s'amenaient avec 60 personnes dans la délégation de tel ou tel pays d'Afrique et qui allaient s'installer dans un hôtel de luxe à Rome. Donc on sait très bien que ceux qui recevront le fric, ça sera les patrons, les chefs d'État, les petits dictateurs, hein, les Bokassa, les Mugabe, toute la clique de tous les pays d'Afrique et du monde d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont pas les seuls. Donc la solution, évidemment, c'est de dire il faut que les multinationales abandonnent leur colonisation des pays pauvres, il faut qu'elles renoncent à ce pactole que leur fournit en effet, soit en exploitant, en payant pas des pauvres gens qui ne peuvent plus se nourrir et qui ne peuvent même plus produire leur riz ou leur manioc ou leur millet. Eh bien, cette autonomie des groupes, cette autonomie au plan local, cette casse, la casse nécessaire de la société de la démesure, effectivement, c'est ça qui pourrait, en effet, éviter qu'on continue sur la voie de ces millions, ces dizaines de millions de gens qui crèvent de faim. Il faut qu'ils arrivent. Alors, on entend maintenant ça, hein. On en dit, ah ben oui, tiens, peut-être qu'il faudrait, j'entendais ça hier soir, dans une émission, tu sais, l'émission de Taddeï, là, qui suit. Alors, ils avaient invité le roi Ladurie et puis un certain nombre d'autres personnages qui disaient, ah ben oui, peut-être qu'en effet, ce serait pas mal que M. Sarkozy aussi ose dire, hein, là encore, c'est un crime contre le cerveau, il ose dire qu'il faudrait en effet redonner son sens à l'agriculture. Voilà. Mais à laquelle agriculture? Oui, oui, oui. Si c'est l'agriculture industrielle de la FNSEA, eh ben, elle voilà. Simplement entrer dans le mécanisme du commerce. Oui. Et c'est le deuxième point sur lequel non seulement le gigantisme de la production, mais le crime que représente la commercialisation. Parce que le productivisme, contrairement à ce que disent certains, on sait très bien que c'est pas seulement pour produire, c'est pour faire des affaires. Oui. C'est donc pour commercer. Oui. Oui. Et j'avais envie, si on a le temps, de relire un texte de Élisée Reclus sur le commerce international.
Alors, Jacques, entendu, de toute façon, on continue, hein, cette émission-là, vous savez, là, il reste une vingtaine de minutes, donc l'émission Chronique Hebdo. Simplement, le lien, rappeler rapidement que cette semaine, c'était samedi, s'est achevé à Bonn, en Allemagne. Hein, là, c'était la conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Et voilà ce qui est annoncé. Donc 191 États étaient là. Évidemment, là encore, la responsabilité des États, vous la connaissez, et de certains plus que d'autres, hein, puisque certains ont vendu, vous le savez, les fameux permis de polluer, des points à racheter. Hein, moi, je pollue pas, et ben donc je vais te vendre des points. Comme ça, toi, tu vas pouvoir m'envoyer tes saloperies, sans parler, évidemment, de la planète et de voir que l'on peut pas faire, comme on le disait tout à l'heure, des murs, hein, pour arrêter la radioactivité, comme le nuage de Tchernobyl, où on peut pas arrêter, évidemment, la pollution ou le réchauffement ou le dérèglement climatique avec le CO2. Et simplement, ce qui était annoncé, quand même, un mammifère sur 4, hein, un oiseau sur 8, un tiers des, je sais pas s'il y a les grues dedans, un tiers des amphibiens sont menacés selon l'Union mondiale pour la conservation de la nature. Alors, ils étaient tous entre experts, hein, il y en a beaucoup, 5000 experts, hein, c'est pas rien, donc ils sont quand même très inquiets. Là aussi, il y a des gens qui ont des intérêts dans l'affaire, d'autres qui ont moins d'intérêts, donc et qui disent certaines choses, comme vous savez, le rapport du GIEC pour le climat, ce que ça pourrait coûter, mais là, une chose...
Oui, mais tu écoute, sais que oui, je sais, Jacques, ce rapport alors, est très, très
voilà, contesté par certains. Alors, justement, il faut peut-être le contester, voir, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est apparu, là aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, je ne savais pas, je ne sais pas si tu sais ça, il y a un projet de fertilisation des océans, c'est-à-dire que de mettre dans les océans certains produits pour accroître le stockage du carbone, pour faire justement une absorption de CO2 de l'ensemble des océans de la planète. Alors ils se sont rendus compte quand même du danger, je ne savais pas, ça c'est un peu en loose day, c'est un peu en secret, et ce qui s'est passé, eh bien... on a adopté un moratoire sur la fertilisation des océans. Alors voilà où cette science sans conscience, on le dit souvent, peut conduire, hein, par rapport à, le danger par rapport à ça. Donc on avait prévu, alors là aussi, sur cette affaire de fertilisation des océans, il y a une autre histoire aussi qui est un peu secrète, hein, mais il y a quand même tout un tas de gens qui en parle un petit peu, alors donc c'est un petit peu moins secret, eh bien, c'est de dire qu'il y a des systèmes où on balancerait dans l'atmosphère, hein, certains avions, balancerait des paillettes, soit des paillettes de sel d'aluminium. Alors il faudrait aller voir ça pour aussi refroidir, et ça se ferait à certains moments, et ça se serait aussi classé confidentiel défense. En tout cas, là c'est très officiel, ce projet de foutre des tas de trucs. Alors c'est pas du pétrole, hein, c'est pas dans les océans ou dans les mers, mais l'idée de la fertilisation. Alors je voulais relayer ça avant que tu lises, Jacques, ce texte. De savoir aussi, comme tu en as parlé par rapport à la FAO, et puis d'y dire la responsabilité, encore une fois, de la Banque mondiale, qui a complètement fait, par le fait de subventionner tout un tas de types d'exportations, casser toutes les cultures vivrières d'énormément de pays, hein, simplement on produisait du mil et du manioc, et bien on envoyait du blé, on faisait du mauvais pain, et puis maintenant, comme on aura des problèmes de haut niveau de quantité de blé à exporter, et bien les gens ne pourront plus manger. Et rappelez quand même qu'il y a un ouvrage intéressant qui s'appelle « Nourrir l'humanité », qui a été publié aux éditions La Découverte, par l'auteur qui s'appelle Bruno Parmentier, hein, sans jeu de mots, on va faire Parmentier par rapport à nourrir l'humanité, et il disait quand même quelque chose de très important, et qu'on était en pleine folie, enfin on en a souvent parlé, par rapport à comment ce que l'on mange, en particulier en Occident, par rapport aux États-Unis, par rapport en Europe, et il donnait ces chiffres-là, la consommation de viande moyenne en Europe est de 80 kilos par habitant, 80 kilos par habitant par an en Europe, consommation, et la consommation aux États-Unis, 100 kilos de viande. Hein. Alors quand on dit de la viande, eh bien évidemment, c'est pas un produit, ça pousse pas dans la terre. C'est des animaux qu'il y a derrière, hein, qu'on a oublié totalement. C'est-à-dire toute cette filière épouvantable. Là encore une fois, d'élevage, hein, comme ça peut se passer. On peut parler de concentration, de systèmes concentrationnaires terrifiants pour l'ensemble des animaux, et donc une société qui fonctionne comme ça. Alors non seulement il disait, parce qu'il employait quand même des mots, c'est un chercheur, que c'est déraisonnable par rapport à la planète, hein, mais que c'est aussi déraisonnable par rapport à la santé des individus. Mais enfin, les choses sont liées. Plus les individus deviennent malades, plus évidemment les trusts, vous le savez, pharmaceutiques et l'ensemble de ceux qui veulent soigner, soigner, font fortune. Hein. Tout est lié dans ce système, évidemment, capitaliste. Alors ça, c'est très important quand même de souligner ça, puisque ça va avec le reste. Hein.
Oui, absolument. Voilà. Alors, de ce que tu dis, là, quand on dit bah, on va essayer de sécuriser même des océans, qu'on va mettre des brevets, comme on met des étiquettes aux oreilles des vaches. On est dans cette logique du productivisme à tout craint, et les solutions qui sont proposées pour résoudre, soi-disant, la faim dans le monde, pour faire en sorte que des millions, des dizaines de millions de gens ne meurent pas de faim, les solutions qui sont proposées sont des propositions qui ne peuvent que aggraver encore la situation. On ne peut pas, en effet, se mettre à distribuer simplement tout le produit du vol capitaliste qui a été fait sur ces pays-là, le redistribuer chichement, et en plus le redistribuer à des gens qui ne l'utiliseront pas du tout, parce qu'ils sont dans la même logique, dans la même philosophie du pouvoir et du mépris de leur propre peuple. Et je crois que la seule solution, en effet, c'est de modifier totalement, mais là encore, ça veut dire que c'est une révolution, modifier totalement les comportements et les centres d'intérêt, c'est-à-dire ne plus accepter que le productivisme, que quelques-uns, les plus riches, les plus forts, les plus gros, les plus puissants, puissent faire l'aumône aux autres, à tous ces millions de gens qui crèvent de faim. Il faut que ce soit ces millions de gens qui puissent en effet avoir les moyens de vivre eux-mêmes, et d'une façon la plus autarcique, c'est-à-dire en produisant et en consommant le plus possible de biens et de services qu'ils peuvent eux-mêmes faire. Et je crois que ça rejoint ce que disait déjà il y a 100 ans Élisée Reclus, on peut lire ça dans son ouvrage « L'homme et la terre », à propos du commerce international. Et je pense que je vais vous relire ce texte qu'on a déjà lu.
Bien sûr.
Sur ce plan. parce que il est tout à fait d'actualité. Quand ce matin, en venant au studio, j'ai croisé au moins deux énormes camions dans les petites rues de Paris qui arrivaient même plus à passer, tellement ils étaient gigantesques. Donc cette espèce de folie de la démesure, elle touche absolument tous les secteurs, cette folie de la concentration et cette folie de vouloir à tout prix faire des affaires simplement en faisant du commerce. Voilà ce qu'écrivait déjà Élisée Reclus dans le tome 6 de son ouvrage « L'homme et la terre » à propos du commerce. L'évolution du commerce depuis les premiers âges nous montre de singuliers contrastes. Dans les premiers âges, il commence par être honni. Ce fut une honte de faire du commerce, de trafiquer. Et maintenant, dit-il, déjà en 1900, c'est la gloire par excellence. Le principe du commerce étant par sa nature même, écoutez bien, égoïste, personnel, insoucieux de tout intérêt étranger. Vous entendez bien, insoucieux de tout intérêt étranger. Et on voudrait nous faire croire que on va aider les malheureux qui crèvent de faim grâce à notre commerce et à l'argent que ce commerce doit susciter. Le principe du commerce étant insoucieux de tout intérêt étranger, il en résulte, dit toujours Élisée Reclus, que de nos jours encore, l'opinion publique et les lois officielles respectent le malheureux, entre guillemets, qui cherche dans le crime, dans l'avilissement systématique d'autrui, les éléments de sa fortune. Eh bien, on est tout à fait ça. On a cherché, on a trouvé, d'ailleurs, pour ceux qui sont à la tête des États et des multinationales, on a trouvé, en effet, les éléments de notre fortune sur le dos, effectivement, de tous ceux qui sont les victimes de ce commerce international. Donc, pour Élisée Reclus, c'est un crime, c'est l'avilissement, et c'est un avilissement et un crime qui est soutenu par les opinions publiques et par les lois officielles. Et alors, je continue. C'est principalement quand il s'agit de races dites inférieures, que le commerce se gêne peu pour procéder à de fructueuses tueries. Alors voilà, on est dans les fructueuses tueries. Si des millions de gens crèvent de faim, c'est en effet dans le commerce international à l'égard de Noirs, d'Asiatiques, à l'égard de races à l'époque, comme le disait Élisée Reclus, qu'on considérait comme inférieurs et que malheureusement, même si M. Obama est élu président de la République des États-Unis, je ne suis pas sûr que le racisme aura disparu pour autant. Non seulement le commerce dans la pratique ordinaire, ajoute Élisée Reclus, non seulement le commerce dans la pratique ordinaire est mensonge et fraude, mais aussi par l'ignoble réclame, le commerce est inutilité, obsession et laideur. Alors évidemment, là, on peut dire que il en a mis une sacrée louche, mais je pense qu'en effet, que par nature, dans sa pratique ordinaire, c'est un mensonge et une fraude, et on peut même pas accuser celui qui fait ce mensonge ou cette fraude. Il va nous dire, mais moi, je rends un service, parce que effectivement, mais voilà que il est tout seul à payer, à faire payer ce service, et on ne peut pas dire que c'est vraiment un échange équilibré. Alors actuellement, ajoute Élisée Reclus, dans chaque pays, le chiffre des transactions commerciales est pris comme étalon de la prospérité. Vous avez vu les transactions commerciales, étalon de la prospérité. Alors d'accord, c'est l'étalon de la prospérité de l'Europe et des États-Unis, c'est l'étalon de la pauvreté et de la famine pour tous les autres pays du tiers-monde. Actuellement, dans chaque pays, le chiffre des transactions commerciales est pris comme étalon de la prospérité. Le point de vue contraire serait plus logique. Mieux le sol est utilisé par les habitants, moins devient la nécessité de faire voyager les denrées. Vous voyez, alors, on a là une réflexion qui est complètement d'actualité. Qu'est-ce qui fait qu'en effet, les gens ne peuvent plus manger, c'est parce que d'une part on leur a volé leur outil de travail, leur terre, leur culture aussi, leur façon de vivre, leur façon de se nourrir, leur façon de vivre, en leur présentant comme la panacée, en leur présentant comme le signe du bonheur, le système Coca-Cola. hein, le système Coca-Cola. Eh bien, non seulement on a fait ça, mais encore on a décidé de faire des affaires en faisant voyager les denrées. Hein. Quand on a déjà dit ici que, je sais plus où j'avais lu ça, qu'un pot de yaourt, avant d'arriver sur la table, il a fait 2, 3, 4 000 kilomètres un peu partout, rien qu'en Europe, en ce qui concerne l'emballage et toute la fabrication, le transport, et la façon aussi d'essayer en délocalisant de payer le moins possible ceux qui contribuent à la richesse. Donc c'est un constat d'actualité. Et je conclus ce que écrivait Élisée Reclus. Au lieu de considérer le commerce comme un fétiche, il y a lieu pour chaque groupe humain, et c'est là qu'on revient au fond à l'idée de la nécessité de produire localement, éviter la grande taille, éviter le, et faire en sorte que tout ce qu'on peut produire soi-même ou ses voisins, on s'associe pour le faire, on fait des échanges, on fait du commerce avec d'autres sur un plan le plus égalitaire possible, qui effectivement produisent des choses que soi-même on n'a pas pu produire, mais surtout éviter la concentration et la hiérarchisation au sommet d'une multinationale ou au sommet d'un État. Donc je conclus, au lieu de considérer le commerce comme un fétiche, il y a lieu pour chaque groupe humain d'étudier quelle serait la meilleure application des forces naturelles dont il dispose, la meilleure application de sa propre activité, hein, de la répartition avec sagacité entre l'agriculture, l'industrie et le commerce local. Voilà ce que écrivait, il y a déjà une centaine d'années, Élisée Reclus, géographe, et je vous recommande de lire son ouvrage « L'homme et la terre » duquel je viens de sortir ces constatations et qui effectivement rejoignent tout à fait d'actualité. La situation dans laquelle se trouve actuellement la plus grande partie de la planète et des dizaines de millions d'habitants.
Alors voilà, on recommande évidemment, on va en parler un petit peu peut-être du salon du livre libertaire à propos des ouvrages d'Élisée Reclus, toujours d'actualité. Et si vous lisez Le Monde libertaire de ce jour, eh bien vous verrez aussi l'actualité d'Émile Pouget, hein, donc l'actualité de tous ces gens qui, à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, ont écrit des textes qui, évidemment, reflètent la situation actuelle, et simplement pour dire à certains que ce ne sont pas des vieilles lunes. Alors, Jacques, en liaison aussi avec le commerce et l'agriculture, vous savez que Radio Libertaire, vous pouvez l'écouter sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais aussi l'écouter sur Internet, et donc un rendez-vous demain, vendredi 6 juin, à Saint-Jean-en-Royans. Saint-Jean-en-Royans, c'est le 26. Alors Jacques, c'est la poésie justement des départements. 26, c'est quoi? Écoute, c'est Royans.
26, c'est Royans. C'est la Drôme.
C'est Royans, apparemment. Apparemment,
alors voilà. Oui, il me semblait que Royans, c'était dans l'Isère, mais enfin, alors, écoute, ça touche la Drôme, c'est le plateau du Vercors.
Alors simplement, donc Saint-Jean-en-Royans, à 20h30, hein, si les auditeurs, donc vous êtes proches, hein, puis, ou si vous êtes un petit peu plus loin, hein, là c'est ce qu'on a dit par rapport à localement, comment y aller, à 20h30, un titre, terrorisme alimentaire, agriculture totalitaire. Alors là, hein, on y va, vous voyez ce qu'on a dit, soirée débat sur les pesticides, OGM et autres menaces, avec l'intervention de 3 producteurs locaux qui font du maraîchage, des fruits, et de l'apiculture, et tout ça à la maison du Royan, ça s'appelle comme ça, soirée organisée par le groupe La Rurale de la Fédération Anarchiste en partenariat avec Active Royan. Hein, donc c'est directement lié pour les auditeurs justement qui sont dans cette région, eh bien la possibilité d'aller demain soir, écoute, autour de ces thèmes-là dont on a parlé un petit peu ce matin. C'est vrai que c'est pas surfait de parler de terrorisme alimentaire ou d'agriculture totalitaire, c'est exactement cette situation-là par rapport au capitalisme, hein, puisqu'on l'a évoqué, hein, Jacques.
Ça doit être intéressant en même temps de connaître un peu la façon de voir des producteurs locaux.
Voilà. voilà.
Comme tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de, comme le dit le monde libertaire d'aujourd'hui, ils sabotent nos vies, sabotons leur politique. Ben, saboter leur politique, c'est en effet essayer de trouver d'autres façons de vivre ensemble. Et alors, sur le plan alimentaire, sur le plan agricole, c'est vrai qu'il y a les initiatives, évidemment, très marginales, très locales, des services d'échange locaux, des AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui effectivement, je l'espère, prolifèreront. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se battre contre cette espèce de monstruosité capitaliste qui a étouffé, d'ailleurs, dès le début du siècle, enfin dès le début de sa croissance exponentielle et de cette maladie grave, parce qu'on veut parler que du fait que c'est une maladie grave, il a détruit les embryons de coopératives, de mutuelles, d'organisations, parce que moi qui connais assez bien le domaine agricole, eh ben effectivement, quand j'ai commencé à travailler dans l'agriculture, dans les années 50, il y avait 3,5 millions de paysans, hein, et il y avait une vie locale, il y avait des gens qui, en effet, produisaient essentiellement le 80% ou 50% de ce qui était nécessaire à leur vie, et qui échangeaient avec les autres, avec les voisins, dans la limite, effectivement, d'un échange le plus égalitaire possible, les produits ou les services qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais c'est vrai que la monstruosité, la concentration, la démesure qui a consisté à vouloir à tout prix, sous prétexte de productivisme et sous prétexte de compétitivité, faire de l'exode rural, c'est-à-dire chasser des populations entières, et faire de la concentration agraire, c'est-à-dire ne faire que des grandes surfaces avec des outillages absolument démesurés. Quand on voit encore maintenant dans des grandes plaines les systèmes d'arrosage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est absolument effarant. On voit une machine qui un espèce de grand tuyau suspendu sur des roues d'un tracteur qui fait presque 600 mètres de large. Vous vous rendez compte, 600 mètres, c'est absolument de la folie. Et sur des sommes, et sur des endroits où effectivement on pourrait faire vivre des centaines de gens.
Voilà. L'émission, alors justement, Chronique Hebdo, il reste une ou deux minutes. Jacques voulait dire un mot, eh bien, pour rapport au Salon du Livre Libertaire qui a eu
un vrai succès.
Voilà, samedi et dimanche dernier, l'espace des Blancs-Manteaux, donc c'était formidable, hein, en plus que ça. Enfin, de toute façon, tout le monde avait l'air assez heureux de ce qui s'est passé, et puis aussi la fréquentation, hein, c'était
intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de monde, et pas seulement
des libertés. Voilà, des gens qui passaient là, il n'y a pas que des badauds curieux, ça arrive.
Oui, mais même moi j'ai rencontré, alors j'étais sidéré, une dame qui s'occupe de soigner les pieds des différents patients qui une pédicure en quelque sorte.
Qui est venue là
qui était là et j'étais
qui ne l'a pas lu avec ses pieds, hein, voilà.
Ce qui prouvait que à la fois Radio Libertaire est écoutée et que effectivement des tas de gens qui en effet voient d'un œil un peu lointain la philosophie ou la politique ou l'organisation sociale anarchiste, eh bien font comme Monsieur Jourdain, ils font de la prose sans le savoir, ils font de l'anarchie sans le savoir.
Alors, on souhaite donc pour le prochain un Salon du Livre Libertaire d'être encore à égalité, encore plus beau, en plus intéressant, plus passionnant que celui des Blancs-Manteaux. Donc voilà, et continuez. Alors les rendez-vous aussi avec des livres, les rendez-vous avec des bouquins, vous pouvez voir ça dans le Monde Libertaire de ce jour, hein, toutes les possibilités de contact, et en particulier aussi à Publico. Regardez l'agenda, je vous conseille l'agenda de Radio Libertaire et du Monde Libertaire de ce jour en ce qui concerne les rendez-vous à Publico comme la semaine prochaine, et puis avec, il y en aura d'autres aussi, je pense, sur la dernière Chronique Rebelle, hein, je vous l'annonce, on en a parlé la semaine dernière, tous propriétaires du Triomphe des classes moyennes de Jean-Luc Debris chez Omnisphère, et vous verrez ça dans l'émission Chronique Rebelle à 13h30 samedi prochain. Donc voilà pour Chronique Hebdo, le relais, restez à l'antenne, émission avec Marlène de Rimes et de Notes. Tout de suite, il est juste midi et nous vous disons comme d'habitude,
et à bientôt, pas comme d'habitude, à la semaine prochaine, voilà, et bonne semaine libertaire.
Et résistez bien. Salut.